Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je souhaiterais remercier Petit Bateau qui m'a proposé de sponsoriser cet épisode autour des valeurs de la marque, l'environnement, l'écologie et l'éducation de nos enfants sur leur rapport à la planète. Le groupe Rocher, auquel appartient Petit Bateau, est devenu entreprise à mission fin 2019 et dans le prolongement de cette transformation, ces marques ont établi une charte qui les amène à prendre soin de la planète à tous les niveaux et de façon très concrète. De son côté, Petit Bateau a retenu 10 engagements phares et parmi ceux-ci, la publication de la durée de vie de leurs produits, la mise à disposition de solutions pour que les clients puissent recycler, revendre, réparer ou donner leurs produits, à éliminer tout plastique d'ici 2030 et à veiller à une bonne relation avec leurs fournisseurs locaux. Je suis fier qu'une marque comme Petit Bateau me fasse confiance, d'autant plus pour parler de ces sujets si importants pour l'avenir de nos mômes. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet petit-bateau.fr et cliquez sur nos engagements. Je vous mets également le lien dans les notes du podcast. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de Succès où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes et Histoire de Mec où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Samuel, plus connu sous le pseudo de Samuel et Gaspard sur Instagram, et Cédric, dont vous avez peut-être déjà entendu parler en tant que papatriarcat. Vous les connaissez aussi peut-être parce qu'ils ont déjà eu leur épisode dédié dans Histoire de Daron précédemment. D'ailleurs, je vous mets les liens dans les notes si vous n'avez jamais entendu nos discussions. Je trouve, à titre personnel, ces épisodes passionnants. Quand Petit Bateau est venu me demander si je connaissais des darons qui avaient à cœur de transmettre des valeurs écologiques à leurs enfants, j'ai de suite pensé à eux. On en avait d'ailleurs parlé spontanément dans leurs épisodes dédiés et je les voyais très régulièrement dans leurs stories respectives se balader dans la nature avec leur progéniture. Ils ont tous les deux une approche très complémentaire et différente de la sensibilisation de leurs enfants au rapport à la planète et je crois que les deux correspondent parfaitement aux valeurs que Petit Bateau cherche à transmettre à ses clients. La rencontre était donc toute naturelle, je crois. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie d'abord de Samuel, puis de Cédric. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Donc on est avec Samuel.
Coucou.
Tu t'appelles plus Sam Sam maintenant, c'est fini ça.
C'est de plus en plus rare, ouais. C'est de plus en plus rare.
Ok, t'es désormais adulte, tu es
c'est
papa.
Ça. Je suis grand.
Donc Samuel, on s'est déjà eu dans l'histoire de Daron à deux reprises, hein, je crois.
Ouais.
La première fois, juste toi et moi. La deuxième fois avec Nikouk, qui était ton camarade pour faire un épisode pour parler de votre bouquin de cuisine avec les mômes. Bravo pour ça d'ailleurs, c'est vraiment trop bien. Et là, on se retrouve pour parler de ton rapport à la nature et de comment tu fais aussi pour éduquer ton fiston, donc qui s'appelle Gaspard, que forcément l'internet connaît parce que tu en parles beaucoup dans ton compte Insta et tu mets beaucoup en scène et tu files plein de tips sur votre vie tous les deux. Mais avant ça, en fait, je me demandais un petit peu quel est toi ton rapport à toi par rapport à la nature.
Moi, mon rapport à la nature, il est simple et en même temps compliqué dans notre société, je trouve. C'est-à-dire que moi, mon rapport à la nature, il est très simple. J'en suis émerveillé. C'est-à-dire que moi, je peux rester assis 3 heures sur une colline à regarder les herbes voler dans le vent. Enfin, tu vois, genre c'est avec des pots disparus. Et au final, ouais, j'adore ça. Moi, je vais randonner dès que je peux. Cet été, je pars une semaine dans les Alpes en trek.
Ça te vient d'où ?
Ça vient, je sais pas, ça m'apporte une espèce de sérénité, tu vois. C'est pas éducatif, parce que c'est un truc, c'est pas vraiment une valeur que mes parents m'ont transmise. Voilà, un truc qui était très ancré dans notre éducation avec mes frères. Mais petit à petit, moi, j'étais d'abord passionné beaucoup par les animaux. Et c'est vrai que les animaux, c'est quand même un truc assez fascinant. Et puis ensuite, ça s'est tourné vers la nature en tant que paysage, en tant que voilà. Et j'adore ça, j'adore surtout les Alpes, c'est vrai. C'est un truc, c'est vraiment mon spot, tu vois. Et ça me passionne. Mais en même temps, c'est très compliqué parce qu'on vit dans un moment de grande urgence, tu vois, climatique. Et en fait, d'adorer la nature, en même temps de la voir comme ça, mise à mal et de se dire que ça se trouve que moi, ce qui m'émerveille aujourd'hui, ce sera pas forcément disponible pour les générations futures. Ça me fait extrêmement peur, déjà. Honnêtement, je suis assez flippé de ça. Et en même temps, ça me met un petit peu en colère. Et en même temps, c'est difficile parce que je me dis peut-être que je fais pas assez. Et tu vois, il y a tout un truc. Donc c'est extrêmement compliqué de dire mon rapport à la nature. Mais par contre, c'est vrai que c'est pour moi un sujet hyper important, quoi.
Ok. Tu disais que c'était un moment d'urgence et que tu as la sensation un peu que tu n'en fais pas assez. Est-ce que tu as la sensation que la paternité qui date d'il y a maintenant bientôt 3 ans chez toi a un peu accentué ce sentiment-là?
Ouais, clairement. Franchement, on n'est pas parfait même aujourd'hui hein, en termes d'écologie, en termes de respect de l'environnement. Voilà, on n'est pas parfait. Qui est parfait déjà d'une, et puis voilà, on est en chemin, on fait ce qu'on peut et on essaye toujours de faire mieux. Mais c'est vrai qu'avant que Gaspard arrive, on avait moins conscience de ça et on avait surtout moins conscience de l'exemplarité qu'on peut donner en tant qu'individu, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on dit oui, c'est les grandes entreprises, c'est machin, c'est qui pollue le plus. Mais déjà, sinon, on essaye d'être exemplaire. Je dis pas qu'on y arrive, hein. Je dis qu'on essaye d'être exemplaire. Je trouve que c'est déjà vertueux. Et en fait, d'avoir Gaspard et d'avoir un enfant à qui donner l'exemple, c'est ça qui a vraiment déclenché le fait que je fais vraiment attention systématiquement et que j'essaye de vraiment montrer et expliquer aussi, tu vois. Et Gaspard, c'est un enfant qui adore la nature aussi, qui est très sensible à la nature, aux fleurs, aux animaux, aux plantes, aux arbres. Et je suis assez fier qu'il ait cette sensibilité, même si je suis persuadé que tous les enfants l'ont au départ. Et je suis assez fier qu'on continue à la partager, quoi.
Attends, mais l'œuf ou la poule ?
C'est ça.
Je crois que ton fiston, il aime bien la nature aussi parce que j'ai l'impression que tu l'amènes beaucoup dedans, quoi.
C'est vrai, mais moi, pour moi, tous les enfants, puisqu'on est une espèce comme une autre sur cette planète, on est avec un instinct de préservation de notre espèce qui passe forcément par la préservation de notre milieu. Pour moi, c'est une logique assez logique. mais voilà, donc pour moi, les enfants, ils sont logiquement émerveillé par la nature, d'ailleurs ça se voit, je trouve. Enfin, n'importe quel enfant, quand on lui propose des activités autour de la nature, autour des éléments, de l'eau, de la terre, tout ça, c'est pas pour rien qu'un gamin il peut passer 3 heures sur une flaque de boue, tu vois. C'est parce que je pense qu'à un moment il y a un contact avec la nature qui est naturel et évident, et petit à petit dans notre société on se détache de ça en grandissant. Et je pense que c'est la responsabilité des adultes de préserver cette sensibilité qui est naturelle à l'écologie, entre guillemets, et au respect de son environnement, tu vois. Donc après, moi, je l'ai poussé, tu vois, vraiment beaucoup parce que j'ai eu la chance d'avoir le temps de rester avec lui pendant 3 ans maintenant. Et donc, c'est plus facile. C'est même, je trouve, un luxe d'avoir pu rester 3 ans avec mon fils. Et ça a permis qu'on s'apprenne des choses aussi, tu vois. Parce que moi, je lui ai appris des trucs sur la nature, il connaît plein d'animaux, plein de choses, mais lui aussi, il m'apprend plein de trucs, tu vois.
Comme quoi, par exemple?
Comme l'infiniment petit. Je sais pas si c'est un truc qui va parler, mais...
Tu fais de la physique quantique?
Ouais, mais pas à ce point-là. Il en est pas au quantum, mais par contre, c'est vrai que tu vois, tout ce qui est insectes et tout, en vrai, moi, ça m'a toujours dégoûté, voire... vraiment, enfin, ça m'a saoulé beaucoup, quoi. Et maintenant, on peut passer des heures à regarder une fourmilière. Ouais, je déteste les insectes, en vrai, tu vois. Tout ce qui est insectes et petits reptiles, genre grenouilles. Enfin, c'est pas des reptiles, d'ailleurs. Mais petits, genre amphibiens et tout. Ça me...
Mais lui,
vu que ça le passionne...
Juste avant d'aller plus loin, mais comment t'as fait pour dépasser cette peur-là quand t'as eu ton enfant? Parce que si lui va naturellement vers des grenouilles et que toi tu détestes le truc, comment tu fais pour gérer ce moment-là?
C'est galère. Franchement, c'est une grande difficulté. Je dis pas, c'est comme Gaspard qui adore escalader. Moi, j'ai le vertige de ouf. Je suis sur une chaise, je tombe dans les pommes. Mais lui, il adore escalader. Donc à un moment, tu te dis, est-ce que mes peurs vont devenir des freins pour lui, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai peur des grenouilles. C'est un vrai bail, je déteste ça. Les grenouilles, je crois que c'est le pire. Et lui, quand on voit une mare avec des grenouilles, il est fasciné. Donc, est-ce que tu te dis, mon besoin de ne pas avoir peur des grenouilles, il est supérieur à son besoin d'explorer, tu vois. Et la réponse pour moi, elle était non. Donc, je me fais violence, tu vois. C'est moi l'adulte. C'est moi qui ai plus de capacité à m'adapter à la situation, tu vois.
Mais alors, comment t'as fait concrètement? Parce que quand t'as une phobie, c'est dur de la
Je sais pas si c'est une phobie, puisque j'ai réussi à la surmonter. Mais je suis pas à l'aise, hein. Je t'avoue, je suis pas à l'aise. Faut pas qu'elle me monte dessus, la grenouille, tu vois. Parce que.
Tu fais en sorte de le montrer le moins possible à Gaspard, de ce fait-là.
C'est ça. J'essaie. Alors, moi, je lui dis, tu vois, j'exprime mes émotions aussi. C'est un autre exemple que j'ai envie de lui montrer. Je lui dis, écoute, moi, ça me fait peur, donc j'irai pas plus près. Mais toi, si tu veux aller voir les grenouilles, y a pas de problème. C'est comme quand on escalade. Bien sûr, on reste déjà de toute façon hors de situation de danger, mais quand on a du vide ou quand on voit des trucs qui me font un peu peur, même quand on visite des falaises ou des grottes, Je lui dis, écoute, moi, je suis pas à l'aise. Donc on y va, mais j'ai besoin que tu me tiennes la main parce que ça me fait peur, j'ai peur que tu tombes, j'ai besoin que tu viennes dans mes bras à certains endroits parce que j'ai trop peur que tu te décales et que tu tombes, donc c'est des choses qui s'expriment après, hein, et je pense que c'est sain d'ailleurs, c'est sain d'exprimer ses émotions, ses peurs à ses enfants.
Et t'as pas peur de lui refiler par exemple le vertige à ce moment-là? Parce que par exemple moi j'ai un pote, j'ai une petite anecdote là-dessus, mais je me suis retrouvé avec un pote qui était vertigeux. On a pris un mauvais chemin, on s'est retrouvé sur la crête d'une falaise, si tu veux.
Yes.
Il m'a broyé la main, littéralement.
Ah,
parce
oui,
qu'il
oui.
est complètement tétanisé, quoi. Et toi, comment tu fais en fait pour gérer à la fois ton fils qui est bah quand même un bébé, quoi. Tu vois, encore un petit garçon. Et toi, et ta trouille à toi, quoi, à ce moment-là.
Bah, je pense que vraiment, comme je te dis, j'essaye d'exprimer. Après, quand c'est insurmontable, je dis non, tu vois, zap. Tu vois, et puis après, par exemple, on a fait un truc pas loin d'Annecy, il y a 2 ans maintenant, enfin non, il y a 1 an et demi, où on avait pu visiter des gorges, tu vois, d'une rivière, et genre, il y avait 50 mètres de vide, et c'était des passerelles en gris, tu vois, transparente, mais tu vois, il y a en dessous.
Ouais.
Et à ce moment-là, tu vois, par exemple, là, il y avait mon père avec nous, donc je lui ai dit, écoute, papa, t'y vas, tu prends Gaspard, vous faites votre vie, moi, je vous attends là, tu vois. Et en vrai, ça, s'il n'y avait pas eu mon père, j'aurais dit à Gaspard, je suis désolé, on ne peut pas y aller. Parce que là, c'était trop, tu vois. C'était vraiment trop. Mais par contre, après, au quotidien, on a des carrières de pierre à pas loin de chez nous, on escale tous les jours. Et ça, je lui fais confiance. Et je lui dis, j'essaie de lui dire assez souvent que je lui fais confiance et qu'il peut avoir confiance en lui, surtout. Et ça me permet aussi de me rassurer, parce que quand je le vois se débrouiller comme ça, et qu'il arrive super bien à gérer, et que même lui, quand il voit qu'il y a un danger, il sait éviter le danger. Apprendre à faire confiance à son enfant, c'est aussi apprendre à se faire confiance à soi et à son jugement, tu vois. Et ça aide pour les peurs.
C'est beau ce que tu dis.
Ouais, souvent.
Pour revenir à l'infiniment petit, tu me disais qu'il t'avait appris ça, mais je t'ai coupé sur les amphibiens, pardon.
Ben non, mais c'est qu'en fait, moi, c'était pas un truc qui me passionnait, mais on regarde, à la maison, on a des fourmilières. On regarde des fourmilières peut-être 3 quarts d'heure, tu vois. Et je sais pas si tu t'es déjà posé 3 quarts d'heure devant des fourmis, mais c'est dingo quand même, les fourmis, hein. Et donc t'as plein de trucs comme ça, si tu veux, où eux ils ont une sensibilité à des odeurs, à des textures que toi tu t'es jamais arrêté, tu vois, sur les différents types de feuilles dans les arbres de la garrigue, tu vois, qu'est-ce qui pique, qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est lisse, tu vois, c'est des trucs, ça j'avais jamais pensé à m'y intéresser, et au final c'est assez passionnant, tu vois, et c'est ça qui m'apprend au quotidien.
Ok. Tu l'emmènes balader
tous les jours?
Beaucoup. Tous les jours?
Bah ouais, parce que comme je te dis, j'ai le luxe d'être à la maison. Là, on est confiné depuis 1 an et demi presque. Je sais pas combien ça fait de temps maintenant, mais on a la chance, voilà, on a la chance d'être à la campagne depuis, et donc on sort. Tu vois, on a la garrigue derrière nous. On sort tous les jours au moins derrière la maison. Tu vois, marcher 5 minutes. C'est pas tout le temps des grandes randos, hein. Mais c'est forcément au moins une bonne demi-heure par jour, tu vois. Rien que pour aller au village acheter le pain, on y va à pied. Donc tu vois, un chemin de 5 minutes à pied avec Gaspard, c'est genre 1 heure de trajet. Donc ça nous apprend beaucoup de choses sur la nature.
C'est ça,
il regarde partout. Il s'arrête sur chaque truc. Alors quand il pleut un peu, il faut compter tous les escargots du chemin. Quand il fait soleil, l'été, on compte les cigales. Donc tu vois, on a la chance d'avoir cette nature-là aussi. Quand on est dans le béton et quand on est dans l'hyper-urbanisation, c'est plus difficile. J'avoue que c'est là que je dis qu'on est dans un certain luxe, quoi.
Bon, après, je crois même quand tu vis à Paris, tu vois, il y a quand même moyen d'amener tes enfants dans les bois, etc. Mais effectivement, il y a moins d'escargots. C'est moins à proximité, quoi, j'imagine.
Ouais. Donc nous, tu vois, on a tout à pied. Niveau nature, on est bien servi, quoi.
Tu disais tout à l'heure que tu montrais l'exemple, que tu voulais montrer l'exemple à ton fiston. Ça se concrétise comment?
Bah déjà, vu qu'on est ensemble depuis 3 ans, ça fait 3 ans que Gaspard il fait toutes les courses du foyer, tu vois. Et mine de rien, ça paraît complètement con, mais pour moi, d'amener ses enfants faire les courses, ça peut être une tannée. Je dis pas le contraire, parce que hyperstimulation, parce que plein de sollicitations pour les yeux des enfants, voilà. Mais tu vois, nous, on essaye de faire les marchés le mercredi matin et le samedi matin du village. Et après, on va genre à la Biocoop ou quoi pour le reste. Et
c'est... Ah, vous êtes pas du tout hyper hyper marché.
Vraiment, à part la supérette du village pour acheter les gommettes et les trucs, on essaye d'éviter. Après, on fait des chrono drives, tu vois, de temps en temps pour les trucs qui se trouvent pas en biocoop. Et ça suffit. Mais en fait, moi, j'ai banni l'hypermarché pour plein de raisons différentes. Déjà parce que j'ai pas envie de consommer dans des immenses surfaces comme ça. Parce que j'y trouve pas ce que je cherche parfois, et c'est chiant. Et surtout parce que, en fait, en termes d'éducation, et tu vois, quand je t'ai dit, ça peut être une tannée les courses, quand tu vois, moi je suis très sensible, par exemple, aux violences dites éducatives ordinaires, et c'est un lieu où ça pullule de ouf, parce que les gens sont stressés, ils ont envie de rentrer chez eux, ils ont les gamins, ils ont les courses à faire, et donc ça gueule, ça crie, ça punit, ça pleure. Et moi, ça, c'est un truc, c'est trop violent pour moi, donc je m'extrais de ça, je vais à la biocoop avec les yeux, tu vois. Non, j'adore les gens qui vont à la biocoop, hein, mais voilà, c'est pas le même public, et du coup, c'est beaucoup plus calme. Et je reviens au sujet, c'est qu'en fait, on va faire les courses avec Gaspard, et je trouve ça important parce que déjà, ça lui permet d'avoir la vision de ce que c'est, par exemple, la saisonnalité des produits, tu vois. Parce que quand on va dans ce genre de magasin et au marché, ben, on ne trouve pas de tomates en février, tu vois. On ne trouve pas de melon en janvier, et on ne trouve pas de fraises en septembre, tu vois. C'est rare. Et en fait, ça, c'est important pour moi parce que c'est déjà lui montrer que la vie, c'est un cycle, que les saisons, ce sont des cycles et que chaque aliment qu'on consomme, on le consomme à un moment précis et c'est comme ça que ça nous permet de respecter la nature. Après, le fait qu'il vienne aux courses avec moi, c'est aussi une façon pour moi de lui montrer qu'on consomme une dose pour un certain temps et que c'est pas, tu vois, genre on achète 300 balles de courses et on voit ce qu'il nous reste dans 3 semaines, ce qu'on jette ou pas parce que ça a périmé. Et tu vois, donc on y va plus souvent, mais du coup, on prend moins de choses. Et ça, c'est super intéressant. C'est la première chose qui vraiment me permet d'aborder plein de sujets avec lui, en plus, tu vois. Parce qu'en plus, là, il est dans une période où il a commencé les « pourquoi ?». Donc, et pourquoi il y a des fraises maintenant et ça vient d'où, les fraises? Et donc, voilà, c'est assez intéressant. Et après, toujours sur l'alimentation, moi, j'essaie de lui montrer aussi... le gaspillage, les déchets, la gestion des déchets, tout ça. Alors, je suis pas du tout moralisateur en mode tu finis ton assiette et tout ça. Pour moi, c'est mort parce que je trouve que l'enfant il a sa sensation de faim et que c'est à l'adulte de s'y adapter, tu vois. Mais après, effectivement, on essaye de pas jeter, de pas gaspiller, de composter ce qui est compostable. Donc voilà, tu vois, c'est le genre de truc. En plus, les enfants ils kiffent.
C'est
assez fascinant. Voilà, j'hésite à en acheter un avec des petits vers qui mangent tes trucs. J'ai vu
ça m'étonne que tu ne l'aies pas encore fait, justement.
Ouais, j'hésite. J'ai un classique, là, tu vois, mais ouais. Franchement, j'hésite. Donc, voilà, il y a ça, niveau alimentation. Après, niveau trajet, tout ça, bon, lui, il n'en a pas conscience, mais tu vois, on essaye de covoiter quand on va faire des sorties avec les copains. On essaye de... Bah, après, c'est assez mal desservi en transport en commun chez moi, je suis dans la campagne, mais on essaye de faire au maximum. Et puis, même en termes de vêtements, tout ça, tu vois, on essaie d'acheter du seconde main. Ce que Gaspard n'utilise plus parce qu'il est trop grand, on le revend ou le donne. Enfin, tu vois, on essaie de favoriser ces circuits-là de seconde main. Et voilà, on fait au max, quoi, avec nos moyens.
Bah, c'est cool. Et en grandissant, en fait, comment tu comptes, parce que là pour l'instant il n'est pas encore à l'école.
Ouais.
L'école arrive et tu vas avoir forcément plein de sollicitations extérieures, etc., etc. Comment tu comptes réussir à lui montrer et comment vous comptez réussir à lui montrer dans le temps les bonnes choses à faire en fait versus les copains, quoi, tu vois, par exemple.
Bah, en fait, moi je pense que le principal c'est d'aider l'enfant à ce qu'il se développe son propre libre arbitre et son autonomie et son raisonnement logique. Et pour ça, je pense que déjà, il faut qu'il ait des bases solides, donc de tout ce qui est respect des autres, tolérance, bienveillance, tu vois. Ça, pour moi, c'est les bases essentielles pour une vie en société. Et derrière, après, son libre arbitre et son esprit critique. C'est-à-dire que, oui, peut-être que tu auras des copains qui regardent 6 heures les dessins animés par jour et qui trouvent ça trop cool, mais est-ce que toi, tu préfères regarder 6 heures les dessins animés par jour ou faire ce que les autres trucs qu'on te propose? Et après, il y a aussi autre chose, c'est accepter que ton enfant ne t'appartient pas et que tu peux pas projeter toutes tes attentes sur lui. Donc si un jour, il me dit, ouais, mais tu vois, d'ailleurs, c'est arrivé, il me dit, ouais, je veux un sac à dos, pas de patrouille, Et ben tu fais quoi? Tu lui dis non parce que la pâte patrouille, ça représente l'hyperconsumérisme et le, enfin tu vois, c'est un gamin de 3 ans, il veut un truc pâte patrouille. Alors tu peux lui dire, écoute, là on n'a pas les moyens de te l'offrir, on peut essayer de trouver un truc, on peut un sac, on dessine un truc de la pâte patrouille dessus. Tu peux lui dire, ah t'aimes bien la pâte patrouille, tu veux qu'on regarde un épisode, tu veux qu'on dessine des trucs de la pâte patrouille, machin. Et après, tu vois, tu t'adaptes. Tu peux pas, ton enfant, c'est pas une bulle, tu vois. Et c'est normal aussi qu'il évolue et qu'il évolue avec son temps, sa société. Tu peux pas le garder comme tu voudrais qu'il soit à 3 ans toute sa vie.
Et c'est qui ton chien préféré de la pâte patrouille alors?
Moi, c'est Ruben. La réponse est tellement du tac au tac. Ruben, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est un petit bulldog qui fait la construction, lui. Mm. Il est un peu teubé, mais je l'aime bien.
Et donc, est-ce qu'il a son sac pâte patrouille?
Il a pas un sac pâte patrouille, mais par contre, il a un sac Mickey et un autre sac dinosaure.
Ça va.
Ça va. Le sac Mickey, c'est ma mère, sa grand-mère qui est responsable de l'achat, donc je me dédouane.
Mais t'as ça aussi après.
Ouais, il y a ça. Après ça, faut prévenir aussi en amont, tu vois, les proches. Pour les premiers anniversaires, les premiers Noël et tout, nous on avait fait des listes parce que sinon, c'est compliqué après parce que t'as des gens t'offrent des trucs, t'as pas envie que ton gamin y joue avec, tu le mets au grenier, mais du coup, ça a été quand même acheté, c'est consommé, donc c'est con, quoi.
Tu fabriques beaucoup de trucs avec ton fiston, j'ai l'impression.
Ouais, alors tu vois, ça c'est encore un truc qui m'a appris, entre guillemets, en tout cas que la parentalité m'a amené à adopter, c'est de construire des trucs. Tu vois, parce qu'en vrai, moi je suis pas du tout manuel, je viens d'une famille où c'est pas du tout un truc qui a été mis en valeur, tu vois. Mon père, je crois qu'il a jamais touché un tournevis de sa vie. Mais en fait, moi je m'y suis mis avec Gaspard, on a construit un tipi dans le jardin, qui nécessite maintenant un petit entretien, mais voilà, on construit des cabanes, et puis après on a des objets, tu vois, là hier on est allé faire un atelier nature, il s'est fait un petit attrape-rêve en triangle avec de la laine, enfin 3 bouts de bois en triangle, et puis de la laine autour, c'était super sympa, tu vois, mais ce qui est cool en plus, c'est qu'on se rend pas compte, mais c'est le genre d'activité, tu vois, quand t'es un daron et que tu te dis, bon, putain, j'ai 3 heures de pluie devant moi, je suis tout seul à la maison avec les petits, qu'est-ce que je fais, tu vois, tu sors genre 3 bouts de bois et une pelote de laine, et lui ça l'a tenu 1h30, tu vois, et c'est des trucs, ça, en vrai ça paraît tout bête, mais c'est super pratique pour avoir des petites idées d'activité, tout ça, et puis c'est très simple à mettre en place, quoi.
Tu fais des cabanes avec ton fiston, tu
ouais,
disais.
On a fait des cabanes, mais après là pour l'instant c'est des cabanes, tu vois, là j'attends un peu, quand il sera plus grand on va se faire des trucs badass, j'ai repéré des espaces déjà, tu vois, on va non mais moi je suis chaud, tu vois, d'avoir une cabane avec des clous et tout, des planches, le truc vénère avec l'échelle et tout à l'américaine, tu sais, genre cabane de Twilight un peu. Là pour l'instant c'est genre quelques troncs d'arbres au sol, tu vois, mais c'est cool.
Ouais, bravo. Merci beaucoup Samuel, c'était cool.
Bah avec plaisir, merci à toi.
Et puis bah pour tous les gens qui n'ont pas écouté tes épisodes précédents, je vous invite à les regarder dans
la description.
Et puis bon, je mettrai aussi le lien pour aller suivre tes aventures de daron sur Instagram.
Ça roule.
Super daron.
Oh, super, je sais pas, mais daron qui s'éclate.
Bon, on est avec Cédric. Salut Cédric.
Salut Fabrice.
Ça va?
Ça va et toi?
Ça va bien, la vie est belle, écoute, c'est plutôt cool. On est là pour parler de ton rapport à la nature, à l'écologie, et aussi de ton rapport à l'éducation, à la transmission que tu as avec ta fille qui a 3 ans.
Bientôt 3 ans.
Bientôt 3 ans. J'essaie de suivre, hein, tu vois, mais donc bientôt l'école, non?
Eh ben non, pas d'école. non, elle sera en instruction en famille.
On a tout un sujet. On fera un épisode. On l'a déjà dit, mais on fera un épisode sur l'instruction en famille. On fera un live avec Samuel, si tu veux bien, sur le sujet de l'instruction en famille sur Twitch, et qu'on pourra retrouver dans Histoire de Daron très bientôt. Mais gros sujet, j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, d'où te vient, toi, ton déclic ou ton rapport à la nature, à l'environnement d'une manière générale et à l'écologie aussi?
Alors, je pense que déjà, il y a un vrai rapport à la nature et à l'environnement qui vient tout simplement de mon éducation et de comment j'ai pu vivre étant enfant, puisque j'étais à la campagne, dans un petit village qui s'appelle Salbeuf.
Avec Colassan.
À côté de Bordeaux, donc dans le sud-ouest. Et très sincèrement, j'étais très, 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 très souvent dehors, avec notamment une mère qui... qui m'expliquait beaucoup, voilà, les plantes, qui connaît beaucoup le nom des arbres, le nom des fleurs. Et donc déjà, ça c'est intéressant. Et qui avait aussi ce côté. Alors, elle, c'est plutôt dans une idée de pas gaspiller, si tu veux, parce qu'elle sort d'une famille de 11 enfants. Fallait pas gaspiller, tout était très très, tu vois, par exemple ma mère ne jette pas les fruits, elle fait des compotes ou des confitures, mais elle ne jette pas les fruits, c'est pas possible. Mais je trouve ça intéressant, si tu veux, en fait, et il y avait toujours cette idée de ne pas gaspiller et essayer de produire, et pour le coup de comprendre aussi le cycle de la vie de production. On a toujours un potager par exemple, tu vois, des choses comme ça, et l'idée c'était toujours de récupérer en fait et de transformer. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui, même si il me semble que c'était plutôt pour des raisons budgétaires familiales, je pense que c'est un point très très important du sujet, dans ma construction sur le sujet. Ensuite, et là je devais peut-être choquer du monde, mais un point qui m'a aussi beaucoup mis en avant sur le sujet, c'est quand je bossais chez McDo en fait. Parce que à ce moment-là, McDo, outre le greenwashing qui a pu être fait sur les changements marketing, ils avaient en interne une grosse politique, si tu veux, qui s'appelait EcoProgress, et sur laquelle je me suis inscrit parce que je trouvais ça hyper passionnant. Et pour le coup, j'ai eu des vraies formations sur, voilà, la consommation d'eau, l'impact. C'était vraiment très très enrichissant, et on était vraiment formés sur les sujets climatiques et écologiques. Et pour le coup, en fait, tout ça, ça s'est retrouvé à chaque fois vraiment dans l'idée de faire attention à l'environnement, de ramasser les déchets. Et en fait, ça, ça se paraît, si tu veux, depuis tout petit. Ma mère, quand on se baladait, des fois, on se baladait, on avait un sac poubelle, et puis on ramassait les déchets des gens qui pouvaient être là. Ça, c'est des trucs tout cons. À l'époque, tu vois, quand j'étais plus jeune, je fumais. C'est s'assurer, quand tu vas à la plage, et que t'es un jeune con, comme je l'étais, j'étais un jeune con, mais qui avait toujours un cendrier. Tu sais, les cendriers portables, je sais pas si t'as connu ça.
Ouais, ouais.
Ces petits cendriers que tu fermais, ça pue le tabac froid. Ou alors, à minima, quand tu vas à la plage avec tes bières, c'est de toujours prévoir un petit fond de bière pour mettre tous les mégots dedans. Tu vois, c'est des petits gestes comme ça, c'est tout con. Hein. Mais quand tu vois l'état des plages encore aujourd'hui, c'est des petits gestes que je remercie. Tu vois, c'est une sensibilisation que je suis très content d'avoir eue. Et ensuite, bien sûr, en grandissant, tu te remets en question sur ta consommation, sur le fait de manger des tomates en hiver, sur le fait de, voilà, je veux pas faire de débat sur les tomates en hiver, hein. C'est pas le sujet, mais n'empêche que ça pose une réflexion, en fait. Ça pose une réflexion de, tiens, comment est-ce qu'on consomme, qu'est-ce que c'est consommer, comment est-ce qu'on consomme, et c'est une réflexion super intéressante à avoir, je trouve.
Et c'est fou. Et ça faisait un moment que tu bossais chez McDo, enfin il y a un bail, non?
J'ai travaillé 11 ans, de 2002 à 2013.
Et donc, l'air de rien, j'ai l'impression, alors tu parlais de greenwashing et tout, mais j'ai l'impression que c'était intéressant qu'une boîte aussi énorme sensibilise ses salariés
mais exactement. Au sujet. Alors, bien entendu, on va pas se mentir non plus, il y a toujours des raisons économiques derrière aussi. Quand tu fais, tu vois, dans les trucs un peu pratico-pratique qu'il y avait pour être labellisé EcoProgress à l'époque, t'avais par exemple changé des mousseurs d'eau pour moins consommer, en fait, t'avais des mousseurs avec des grilles spécifiques. Bien entendu, ça fait aussi baisser la consommation d'eau du restaurant dans lequel tu travailles. Bien entendu, le patron, il a gagné. Mais moi, si tu veux, j'ai envie de te dire, si on trouve des solutions qui, même si j'entends que ça va faire gagner de l'argent, gagner de la marge, faire baisser les coûts financiers pour l'entreprise, faire gagner en profitabilité une entreprise, mais si l'entreprise gagne et que la planète y gagne, ok, après, bien sûr, j'entends globalement la consommation McDo par rapport à la planète, c'est problématique, mais j'ai envie de te dire que, à défaut d'avoir la solution, essayons de ne plus ou de moins faire partie du problème. Ça aussi, ça peut être une démarche très intéressante et sur laquelle on n'a pas à cracher, tu vois. Et ça, tu vois, ils n'ont jamais communiqué là-dessus, par exemple. Jamais.
Oui, comme quoi, tout n'est pas forcément que marketing, quoi.
Tout n'est pas que marketing.
Et ouais, tu disais que quand tu étais jeune, tu faisais gaffe aux clopes, etc. On n'est pas loin d'avoir le même âge, toi et moi. Et en fait, c'est vrai que c'est venu. Moi, j'ai l'impression que la prise de conscience vraiment, planétaire, elle est venue ces 10 dernières années. En fait, avant ça, c'était plus compliqué. Enfin, moi, je me souviens de 2005, à l'époque où j'ai fait mes enfants, il y avait encore Claude Allègre sur TF1 qui était en train d'expliquer que le changement climatique, c'était, ça n'existait pas, c'était un ours, quoi, tu vois.
Ah non, mais complètement. Mais c'est absolument ça. Et j'ai envie de te le dire, en plus, on se le prend en pleine tronche. C'est, nous, je trouve qu'on est la génération où, où c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément été éduqués là-dedans, tu vois. Mais nous sommes ceux qui prenons conscience alors qu'on n'est pas éduqués là-dedans. Donc, j'espère que ce sera plus facile pour la génération d'après. Et tu vois, la génération, par exemple, de mes parents, c'est pas des questions qui se posaient. Pas du tout, quoi. Et la génération d'avant, encore moins. Encore, et vraiment encore moins. Tu vois, on sortait d'une guerre mondiale, on était dans des consommations...
C'était la fête du slip, quoi.
C'était la fête du slip. Voilà. Je sais pas si tu as regardé la série Mad Men. Moi, il y a une scène dans la série Mad Men qui m'a vraiment marqué parce que ça montre bien, parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé. C'était vraiment une pratique courante. Ils ont fini leur pique-nique sur de l'herbe dans un parc. Et donc, ils ont leur petite nappe à carreaux avec tout dessus, tu vois. Et en fait, pour partir, ils lèvent la nappe, ils balancent tout. Ils laissent ça dans l'herbe et ils se cassent. Mais c'était ça, vraiment. Bon, là, on est aux États-Unis, mais c'était vraiment ça, quoi. Mm. C'était vraiment juste, voilà, on est les rois du monde. On est l'humain au centre de l'univers. Je veux dire, c'est l'égo-système à son paroxysme, quoi. Donc, c'est vraiment... Faut voir aussi d'où on part. Et comment, après, est-ce qu'on peut transformer tout ça, quoi.
Comment t'as fait? Est-ce que le fait d'avoir un enfant t'a encore amené dans une autre dimension par rapport au problème écologique?
Ben carrément. Enfin carrément parce que c'est encore une fois c'est que je mâche pas mes mots donc on va y aller. Mais concrètement quand t'as pas d'enfant, alors je vais pas généraliser non. Quand t'as pas d'enfant t'es pas forcément sensibilisé au fait que tu vas léguer quelque chose à des gens. Tu vois, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a percuté parce que je me disais on va en toute transparence tu vois je me disais ouais l'écologie faut faire des trucs et d'un autre côté il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait ouais enfin bon de toute façon toi tu vois tu verras pas les 5 degrés de plus sur Terre, tu connaîtras pas ces problèmes là et mais tu vois vraiment j'étais il y avait quelque part cette petite voix en moi qui me disait ouais d'un autre côté tu vois te force pas trop parce que voilà. Et puis, à un moment, t'as un enfant. Et tu te rends compte que, a priori, va bien falloir l'idée guerre monde à cet enfant-là. Donc, ça te permet d'ouvrir les yeux sur pas mal de sujets. Et vraiment, il y a cette phrase qu'on voit traîner souvent sur Internet, c'est que la Terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Et je trouve que quand tu as un enfant, elle prend beaucoup de sens. Tu vois, c'est vraiment avoir cette réflexion de se dire la Terre et même la société de demain, c'est pour mon enfant, voir ses enfants, enfin voilà, tu commences vraiment à te projeter, quoi. Et là, c'est pas la même sauce, quoi.
Et ça, c'est quoi la sauce, alors?
La sauce, c'est de se dire que, un, si je veux que les choses évoluent, il faut déjà que je commence par moi-même. Soyons le changement qu'on veut voir dans le monde, comme disait Gandhi. C'est un épisode spécial citation. non mais blague à part, c'est un changement que nous voulons voir dans le monde.
Bien sûr.
Et aussi idée. Parce que tu te rends bien compte que si toi tu veux que ton enfant ait une consommation entre guillemets responsable, les enfants ils apprennent en très grande partie par mimétisme grâce à nos amis les neurones miroirs. Et ben si toi tu lui dis écoute il faut trier les déchets, il faut machin, alors que t'en fous pas une, ça a pas de sens. Tu vois. Et de même que si tu lui dis non mais c'est bon on s'en fout. Ça a pas de sens, ou en tout cas, tu l'entraînes à ne pas avoir conscience de ça, de ce problème, et à justement à entraîner, à faire grossir le problème, voire pour ces générations suivantes, quoi.
Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que nos filles sont revenues un jour de l'école après avoir étudié le compost, tu vois. Et de ce fait-là, on a mis en place un compost dans le jardin. Parce que elle nous avait expliqué que c'était bien, que c'était important, etc. Et je me suis dit, ok, bon, on est plutôt sur la bonne voie en vrai. C'est-à-dire que si les gamins dès l'école primaire, ils apprennent ce que c'est le compost et pourquoi c'est bien, c'est bon pour la planète, etc. Et qu'en fait, ils mettent aussi au cordeau leurs propres parents grâce à ça, c'est plutôt cool, quoi.
Ah mais complètement, et moi je pense qu'il y a des trucs comme ça qu'il faut mettre en place et qu'il faut suivre. Tu vois par exemple à la maison, depuis l'année dernière, on fait un potager. On fait un potager. Il n'y a pas 12 000 trucs dedans, si tu veux. Mais on fait un potager. Tu vois, j'ai des tomates, des courgettes, des fraises, quelques haricots. Je fais pousser un peu de betterave aussi. Et ça, en fait, si tu veux, je me suis dit, tiens, je vais commencer à lire des choses sur la permaculture. Parce que, tu vois, un truc tout bête, c'est que mes pieds de tomates, ils sont protégés parce qu'à côté, il y a des pieds de basilic. Voilà. Et ça, en fait, c'est un des éléments qu'on peut retrouver en permaculture, et je trouvais ça intéressant, tu veux, d'expliquer ça à ma fille, voilà. Et puis, viens, on va cueillir les tomates, on a fait pousser les semis ensemble, on va les planter, et je lui explique, on récupère l'eau de pluie, pourquoi l'eau de pluie, et voilà, et on discute, et on donne du sens. Et ça, ça la sensibilise à, je pense, à protéger un environnement qui évolue, et en tout cas, lui faire prendre conscience que ça lui appartient, et aussi qu'elle a des actions très concrètes à mener, quoi.
Qu'est-ce que tu fais d'autre avec ta fille pour lui faire prendre conscience du monde qui l'entoure, de la planète ?
Alors, à son âge, on se promène beaucoup. On se promène beaucoup. Je veux qu'elle soit dans la nature autant que possible. Donc, on se promène vraiment beaucoup, beaucoup dans les bois. C'est plutôt l'écosystème qu'on a près de nous. Autant que possible à la plage, dans les lacs près de chez nous. On observe la nature, tu vois, on a observé les têtards il n'y a pas longtemps, là. On observe les poissons, on explique... Alors, on est aussi dans une démarche d'expliquer pourquoi les poissons... quand on voit des gens les pêcher, bah, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est compliqué, quoi. Parce que, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui pêche, et que peut y avoir un débat, ben tu expliques pourquoi est-ce qu'on sort les poissons de l'eau pour les manger, et pourquoi est-ce qu'il y en a qui les relâchent. Voilà, tu rentres vite dans des même à 2 ans et demi, hein, tu rentres dans des débats très très intenses. Et surtout aussi l'important, tu vois, je vois que par exemple un truc tout bête, c'est de se promener quand tu rencontres des déchets, parce que malheureusement on rencontre quand même pas mal de déchets. Ben, c'est peut-être, tu vois, d'avoir de quoi ramasser et expliquer, non, là, tu vois, là, il y a une poubelle, on va les mettre à la poubelle. C'est des choses toutes simples, là, comme ça, qu'on fait. Et aussi, ça va être des choses toutes simples, je trouve, c'est, tu vois, quand on se balade dans les bois, on aime bien goûter, là, c'est la saison où on trouve des fraises des bois, déjà. Et tu vois, on aime bien goûter les fraises des bois, t'as plein de petites plantes comme ça que tu peux goûter un peu sucrées, des choses comme ça, lui montrer ce que la nature a à nous offrir, en fait. Je pars vraiment de ce principe-là, c'est que si je veux comprendre pourquoi est-ce qu'elle doit protéger la nature, il faut que je comprenne que la nature a des choses à nous offrir. C'est que, voilà, c'est ce qui me semble important, que si demain elle veut se baigner à la plage ou dans un lac tranquillement, bah, il faut que l'eau soit ok, tu vois, enfin, il faut que l'environnement soit ok. Et autant que possible, l'observation des animaux dans leur habitat naturel, quoi. On est allé une fois dans un zoo et moi-même je l'ai hyper mal vécu, quoi. Donc, je dis pas que tous les zoos traitent mal les animaux et tout, mais déjà il y a un principe du zoo qui est, après on est ok ou pas ok avec, mais là c'était vraiment un zoo, c'était horrible. Franchement c'était horrible, j'avais hyper mal au cœur. Donc j'espère, tu vois, par exemple dans les projets, il y a lui faire visiter des réserves, des choses comme ça, mais vraiment lui faire prendre conscience de l'environnement et aussi essayer de réutiliser un maximum. Tu vois, par exemple, les cartons, bon, t'as des enfants, tu sais très bien que le carton, c'est le jouet de base gratuit, quand t'as reçu un colis. Mais tu vois, par exemple, après, on va peut-être dessiner dessus, on va vraiment l'exploiter au maximum, quoi. Essayer d'exploiter la ressource au maximum. Et tu vois, l'année dernière, comme je faisais mes couches de lasagne pour le potager, on a utilisé que des craies ou des choses comme ça sur les cartons qui sont pas du tout toxiques ou nocifs. Et ensuite, les cartons, on les a utilisés pour faire la première couche de lasagne de mon sol de potager, en fait.
Je sais pas ce que c'est des couches de lasagne.
Et en fait, tu mets une couche de carton, une couche de déchets verts, c'est-à-dire de l'herbe coupée, des choses comme ça, et une couche de déchets marrons, ça va être des feuilles, ou, pour le coup, du compost. Et là, je mettais du compost avec des gros vers de terre et tout, donc c'était super intéressant, parce que voilà, c'était, tiens, viens voir les vers de terre, et pour le coup, c'est quoi un vers de terre, et tu lui expliques, et c'est quoi l'intérêt du vers de terre, et pourquoi une terre saine, ça a des vers de terre, enfin voilà. Et tu lui apprends, en fait, ce que c'est l'environnement, et pour le coup, l'importance que ça peut avoir à ses yeux. Et c'est super drôle, parce que, si tu veux, maintenant, quand elle trouve un vers de terre, elle m'appelle, elle me dit, regarde le ver de terre, il est en train de nettoyer la terre. Bon, bah super, tu vois.
Trop bien.
Elle a compris.
C'est pas Moi, assez... je l'ai buté, les vers de terre, tu vois, mais mes parents, ils laissaient faire. C'était terrible, quoi, tu vois. J'ai coupé en morceaux, j'étais là, oh, c'est marrant, on les coupe. Quelle horreur, vraiment.
C'est quelque chose que j'ai eu fait aussi, hein, mais.
Nos parents, je crois qu'ils nous sensibilisaient pas à ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, mes parents, pas du tout, quoi. Ils étaient plus dans ce truc de. Tu sais, les cousins, là, tu sais, je leur enlevais les pattes, oh là là, quelle horreur, le pire enfant, quoi. Mais bon, en même temps, ça fait partie aussi de l'apprentissage de comment on fait, tiens, on lui enlève les trucs. Enfin, c'est terrible, mais s'il y a aucun adulte qui le dit, bah non, c'est un être vivant comme toi, respecte-le. Comment tu fais pour l'apprendre?
Mais c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Mais tu vois aussi le truc de génération. C'est que tu vois, par exemple, c'est super drôle l'exemple que tu prends parce que tu vois, les vers de terre, c'est une discussion que j'ai eu avec ma mère. Où je lui ai dit, tiens, c'est marrant, tu m'as jamais expliqué les vers de terre, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école, tu vois. Et elle me dit, bah non, de toute façon, il y en avait tellement, tu pouvais les découper, on s'en foutait. Non, mais tu vois, c'est ça la différence. C'est qu'à cette époque-là, les vers de terre, il y en a tellement, sauf qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a des sols, et une certaine partie des sols, donc je suis pas bon sur les chiffres, mais une certaine partie des sols cultivés en France, qui n'ont même plus de vers de terre, quoi. Tu vois, c'est plus aussi... bien sûr qu'on va pas avoir de mal à en trouver si on en cherche, mais c'est plus aussi évident qu'avant, en fait, tu vois.
Comment tu te projettes, parce que bon, là, elle est encore petite, si tu veux, mais comment tu te projettes pour continuer cet apprentissage-là alors qu'elle va grandir dans les 10 ans, 10, 15 ans à venir, quoi?
Alors, pour ça, je m'appuie notamment sur un livre, qui est un livre de Soline Brunt-Vervessière, qui s'appelle Sensibiliser les enfants aux questions écologiques, qui est un livre que je recommande pour le coup.
Je vous mettrai dans les notes du podcast, vous connaissez.
qui est vraiment super bien fait et qui propose des activités, qui propose des réflexions au fil des saisons, au fil des âges aussi. Donc déjà, c'est un vrai support parce que on n'est pas obligé d'avoir toutes les idées non plus, on peut aussi les piocher à droite à gauche. Et moi, je pense vraiment que l'accompagnement que je proposerais, c'est plutôt de l'aider à comprendre le monde qui l'entoure. Qu'est-ce que c'est le cycle de l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, en fait, une fois que tu expliques le cycle de l'eau et que tu lui expliques les nappes phréatiques, voilà comment ça se remplit, et que ensuite tu viens rajouter derrière le sujet, par exemple, des pesticides dans les sols qui peuvent aller dans les nappes phréatiques, vu qu'elle a compris tout ça, si tu veux, elle peut comprendre que, si potentiellement, les saletés qu'on met dans les sols, je vais me les retrouver sur la gueule quand il va pleuvoir. Tu vois, en fait, c'est comme ça qu'on fait des liens et c'est vraiment comprendre le monde. Je pense que c'est ça moi en tout cas, c'est le chemin que je veux prendre. Et ensuite, c'est ok, une fois qu'on a compris le monde, comment on fait pour réussir à faire les choses avec le moins d'impact possible. Et ensuite, sur certains sujets, si elle a envie de s'engager, pourquoi pas. Moi, enfin, je vois en instruction famille notamment, tu vois, je vois des enfants de 7, 8, 9, 10, 11 ans qui font des actions écologiques, quoi, sont même déjà allés en manif et tout. Enfin, je te donne l'exemple de San qui est passé dans mon podcast, par exemple. San a 11 ans, c'est elle qui a fait changer le fournisseur électrique de ses parents. Tu vois, et c'est elle qui a regardé qui a comparé tous les fournisseurs d'électricité. Et je trouve ça génial, tu vois. Enfin, là, t'es dans le concret, tu vois. Je trouve ça beau. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire, tu vois, par exemple. Mais il y a ça, et puis après, comprendre le monde. Comprendre le monde, c'est vraiment je pense, une clé importante. Je remercie C'est pas sorcier pour toutes les émissions que j'ai pu regarder quand j'étais petit parce que je pense que vraiment ça a été une clé.
Je crois qu'on a fait le tour.
Ok.
Merci Cédric, c'était cool.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.